This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de Comic-Con Paris 2012 et du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mai 2012 et c'est l'épisode numéro 87. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on évoque toute l'actualité tech, internet et de tous les petits gadgets qui peuplent désormais notre quotidien. Je suis avec Guillaume et je m'appelle Patrick et nous faisons une émission en couple intime, sympathique, un petit peu comme la précédente avec Jeff. Je change de partenaire. Guillaume a l'air un peu malade. Tu vas bien ?
Oui, ça va très bien. Salut.
D'accord.
Patrick.
Tu qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as un rhume des foins ? Non ?
Non, c'est ma copine qui vient de tousser.
Ah, d'accord. Bon, mademoiselle, j'espère que tout ira bien quand même, parce que sinon ça fait du bruit dans l'émission. Donc, que disais-je ? Nous parlons de toute l'actualité technologie, internet, gadget, et je disais, et de tous ces petits appareils qui peuplent notre quotidien. C'est vrai qu'il y a, ne serait-ce que quelques temps, enfin, quand on a commencé l'émission, il n'y en avait pas autant. Hein. Il y avait les ordinateurs, bien sûr, les smartphones, c'était pas autant partout. Donc, je suis heureux de voir que la tech et l'informatique et Internet envahissent le monde et tous les par différents aspects, et donc nous pouvons tous profiter des merveilles de la technologie et du progrès. C'était mon message d'espoir du jour. Donc, nous allons parler aujourd'hui de Facebook, pas notamment. Alors, un petit mot sur Facebook avant même la suite. Bon, si, la suite du programme. Donc, Facebook, Windows Desktop qui a changé un petit peu pour Windows 8, le nouveau réseau social de Microsoft, des technologies incroyables dans le cloud pour les cartes graphiques de Nvidia et plein d'autres choses comme ça. Et donc, on ne va pas parler que de Facebook, mais je veux tout de même adresser un petit message à quelques personnes qui m'ont dit que Facebook avait occupé trop de place dans l'épisode précédent, voire qu'il avait occupé même pas trop de place, mais qu'on aurait peut-être pas dû en parler du tout parce que les histoires de bourse ne sont pas vraiment intéressantes. Alors, très rapidement, le truc c'est que il n'y a pas vraiment d'événements dans l'aspect financier de l'industrie de la technologie, beaucoup plus important que l'entrée en bourse de Facebook. C'est un truc qui se préparait depuis des années et des années, qui était absolument vital. Et j'estime, moi, que d'une part, on couvre tous les aspects de cette industrie. On ne parle pas que des derniers joujoux qui sont sortis, même ça, si ça nous passionne aussi. Hein, quand il y a un iPhone ou un Android qui sort, on est super excité. Mais on parle aussi évidemment des aspects financiers quand ils sont importants, et là c'est un élément essentiel. Disons que on ne peut pas vraiment comprendre les stratégies et les orientations de l'industrie si on ne parle pas de ces choses-là. Et donc, comme j'espère et j'aimerais faire une émission qui vous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette industrie, évidemment qu'on parle de l'entrée en bourse de Facebook et de temps en temps des différentes actualités de ces choses-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on y passe tout l'épisode à chaque fois. Notamment aujourd'hui, on va tout de même en parler puisque cette entrée en bourse a enfin été effectuée. Et les choses, évidemment, on pouvait imaginer qu'il y aurait beaucoup de commentaires et il y en a eu pas mal. Donc, on va discuter de ça. Avant de nous lancer, je voudrais tout de même remercier Ustream qui nous permet de faire cette émission en live sur le net, sur nowatch.net/live, puisqu'ils nous sommes partenaires avec eux et ils nous fournissent la chaîne de live. Et ça nous permet aussi d'avoir notre petite chatroom pleine d'auditeurs attentifs et excités qui nous répondent quand on dit des bêtises, et c'est toujours un moment assez sympathique de passer ce live avec vous. Donc si vous n'avez jamais suivi le live, je vous le recommande, c'est un lundi sur deux à 10h du soir, et c'est sur nowatch.net/live. Bon, alors, Guillaume, tu vas bien? T'es en forme?
Oui, ça va.
Toi, tu as analysé toutes les statistiques de l'histoire de l'entrée en bourse de Facebook. Pour ceux qui ne savent pas, Guillaume est Guillaume de la Statosphère, qui est le site qui étudie toutes sortes de stats super intéressantes. C'est sur statosphère.fr.
Alors oui, il y a toujours des statistiques hyper impressionnantes avec Facebook. Alors, je regarde leur évolution depuis 2008. Et comme c'est des chiffres, généralement, comme c'est des nombres avec 9 chiffres, généralement, c'est toujours des très grandes quantités et on parvient pas forcément à se représenter ce
ouais,
que c'est.
C'est un peu abstrait, quoi. Ouais.
Voilà. Donc, en fait, j'ai récupéré parmi les chiffres que j'ai vus, j'en ai récupéré 4 pour faire une sorte d'analogie et pour dire rapidement à quoi ça pourrait correspondre. Par exemple, j'ai vu la valorisation de Facebook qui est à 103 milliards de dollars.
Ouais, donc ils ont atteint les 100 milliards comme on le pensait.
Voilà, c'est 102,8 milliards exactement. En fait, il faut voir que ça correspond au PIB du Maroc.
La valorisation, c'est la valeur théorique de la somme ajoutée de toutes les actions hein, au tarif où elles s'échangent en ce moment.
Donc oui, c'est relativement virtuel en fait. Oui, mais,
c'est en théorie l'argent que vaut Facebook si on veut le racheter.
Voilà, donc ça correspond au PIB du Maroc. Sinon, ça correspond au PIB de la Slovénie. Plus celui de la Bulgarie. Il faut imaginer aussi que c'est 8 fois le PIB de l'Islande.
D'accord.
Donc c'est pour se rendre compte que c'est vraiment beaucoup.
C'est phénoménal, ouais.
Après, en termes de population, bah ça a augmenté depuis les dernières statistiques. Maintenant, ça correspondrait au troisième pays du monde derrière la Chine et l'Inde, et voire même au troisième continent du monde, juste derrière l'Afrique, qui a 965 millions d'habitants.
Ouais, puisqu'ils sont à 901 millions, je crois, maintenant. Quelque chose comme ça, 900 millions.
Et le troisième chiffre que j'avais repéré, c'était le temps passé sur Facebook. On passe 10,5 milliards de minutes par jour sur Facebook. En fait, il faut imaginer que ça correspond à... C'est comme si on passait 20 000... L'humanité passe 20 000 années sur Facebook par jour.
20 000 ans, oui, effectivement. Là encore,
20 000 ans par jour.
C'est difficile de... Ouais.
Voilà, sont passés sur Facebook. Mmh. On peut, selon les points de vue, on peut se rendre compte du temps perdu ou...
Oui, non, du temps à comprendre ce que font tes amis et ta famille alors que tu ne l'aurais pas su sinon. Parce qu'évidemment, on ne peut pas passer tout ce temps-là au téléphone à appeler chaque personne.
Et le quatrième chiffre, c'est la superficie des bureaux. En fait, j'ai ramené ça, ça représente 200 000 mètres carrés, ce qui correspond approximativement au parc des expositions où a lieu la Japan Expo tous les ans. Donc, je crois que c'est 9 hangars colossaux.
D'accord.
En tout cas, le parc des expositions.
Pour faire fonctionner Facebook.
Voilà, pour faire fonctionner, pour y faire rentrer tous les bureaux du monde entier.
De Facebook, tu veux dire?
De Facebook.
Ouais. C'est marrant parce moi, en tout cas, j'ai toujours cette image un petit peu de, pas de start-up, bien sûr, mais de société qui tourne de manière relativement modeste quand même. Et c'est vrai que 200 000 mètres carrés, enfin, tout le parc des expos où se passe la Japan Expo et la Comic-Con, c'est monumental, quoi. C'est des milliers de personnes. Un petit mot pour répondre à Kame84 Sénine, qui nous dit, sauf que le Maroc, il a son PIB tous les ans. Évidemment,
oui,
c'est
oui,
le
ouais.
PIB, c'est le produit intérieur brut, donc c'est ce qui est produit chaque année, et c'est même pas la richesse du pays, c'est pas la valeur du pays. Donc c'est pas vraiment une équivalence de ce type-là, c'est juste pour donner un ordre d'idée qu'on donne ces chiffres-là. Et alors, au-delà de cette ampleur de Facebook, c'est vrai qu'il y a eu une entrée en bourse un petit peu agitée, et selon qu'on est, comment dire, je veux pas dire pro ou contre la bourse, mais selon qu'on est excité ou pas par la bourse, on va y voir soit la survalorisation excessive de Facebook, soit les exagérations de personnes qui ont tendance à ne pas comprendre de quoi il s'agit. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que Facebook a été mis en vente, enfin l'action Facebook a été mise en vente à 38 dollars environ, et elle s'est, elle a terminé la journée, elle est montée un tout petit peu pendant quelques heures, et puis elle a terminé la journée à $38. Et aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission, elle est descendue un petit peu, elle est à 30, je sais plus, 34 à peu près, quelque chose comme ça. Elle a perdu un petit peu de valeur. Alors, elle a perdu une dizaine de pourcents, comme nous dit Kezak dans la chatroom. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ah bah voilà, en fait, c'est surévalué. Alors, il y a les deux réactions. D'une part, il y a ceux qui disent, ah bah merde, l'action n'a pas explosé et elle n'est pas montée à beaucoup plus haut que son prix d'introduction, donc ça veut dire que l'entrée en bourse n'a pas marché. Et il y a d'autres qui vont dire, ah bah voilà, elle est tombée de 10 à 10%, et peut-être qu'elle va tomber plus, donc c'était une surévaluation, donc c'était une bulle, et en fait Facebook ne vaut pas du tout cette somme. J'ai lu pas mal de choses et je ne suis pas un expert, donc je risque de dire des bêtises, mais moi ce que j'en comprends, c'est un petit peu entre les deux, et surtout ce que j'en comprends, c'est que Facebook, pour Facebook, a super bien réussi son entrée en bourse. Je vais essayer de détailler l'analyse qui m'a paru très pertinente, qui est en grande partie tirée de l'analyse de Dan Scholnick sur TechCrunch. Qui nous dit, en fait, il faut bien comprendre le but d'une entrée en bourse. Le but de l'entrée en bourse, c'est pas de que les gens achètent l'action, que l'action monte très vite et que ces gens-là la revendent pour faire de l'argent très vite. Ça, c'est de la spéculation que peuvent faire les gens avec cette entrée en bourse. Mais le but pour Facebook, c'est d'engranger autant de capital que possible. C'est une levée de capital, en fait, la vente des actions, l'entrée en bourse. Parce que eux, ils ont des actions qu'ils offrent, et une fois qu'ils les ont vendues, eh ben, elles ne leur appartiennent plus. Donc, l'argent, les sommes auxquelles ces actions vont s'échanger ne concernent plus Facebook. Il n'y a plus d'argent qui va rentrer pour Facebook, qui va rentrer chez Facebook. Donc, il faut le but du jeu pour eux, c'est de vendre leur action au prix, initialement, de vendre l'action au prix le plus haut possible pour récupérer le plus d'argent possible, de proposer ces actions donc au juste prix. Si c'est trop bas, eh ben oui, ils vont tous les vendre, mais ils ont engrangé moins d'argent qu'ils n'auraient pu. Si ils proposent l'action à un prix trop élevé, à ce moment, les actions ne vont pas toutes se vendre et ils auront moins d'argent qu'ils auraient pu en avoir. Et donc, l'idée, c'est vraiment de trouver ce juste prix que le marché pourra accepter pour tout vendre. Et en l'occurrence, le fait que l'action ait été très stable au début à $38, ça veut dire que vraiment, c'est exactement le prix que le marché pouvait espérer, enfin que le marché pouvait accepter. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment une excellente entrée en bourse. L'autre élément qui est important, c'est que l'action ensuite, l'entrée en bourse ne se joue pas au lendemain ou au surlendemain. Il est à peu près certain que l'action Facebook, en tout cas c'est ce que les analystes disent, que l'action Facebook va encore descendre. Les chiffres que j'ai entendus, c'est autour de $17 dans 3-4 mois, et que sur le long terme, si elle remonte, elle va remonter sur le long terme, pas dans les semaines ou peut-être même les mois à venir. Donc c'est deux petites morceaux d'informations importants dont il faut tenir compte pour vraiment analyser l'action. Tout le reste, les questions de « Ah, aujourd'hui l'action vaut $17, aujourd'hui l'action vaut plus ou moins », ça ne concerne pas vraiment Facebook directement, parce qu'ils vont pas se remettre à émettre des actions immédiatement. Et en plus, Zuckerberg garde 57% de son... du contrôle de la société, donc enfin des actions, donc il garde le contrôle de la société et il n'y a pas vraiment de personnes qui vont pouvoir décider, c'est juste Zuckerberg qui est en contrôle total. Donc l'investissement qu'on fait, c'est vraiment l'investissement dans Zuckerberg sur sa vision à long terme. Et il a dit, nous, on n'est pas une entreprise vraiment publique, disons qu'on est public maintenant parce qu'il fallait, mais c'est pas le but de Facebook. Le but de Facebook, c'est le réseau social, le partage, la facilité du partage d'informations et la facilité de connexion. Donc avec tous ces éléments d'information, je pense qu'on peut mieux comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il est très très facile de l'extérieur, et je suis aussi aussi à l'extérieur, mais il est très facile de se dire « Ah, ça a pas monté immédiatement au-dessus du prix d'introduction et les gens n'ont pas fait énormément d'argent en les revendant au bout de 6 heures, donc c'est une entrée en bourse ratée. » Et c'est très facile aussi de se dire « Ah bah voilà, elle a déjà perdu 10%, donc c'est une entrée ratée. » Ces deux analyses, à mon avis, bon, ça dépend d'où on se place, mais pour Facebook, c'est une entrée en bourse super réussie. Et évidemment, les banques qui ont fait cette entrée en bourse s'en sont mis un petit peu plein les fouilles en même temps. Encore que généralement, elles prennent 7% de frais. Là, elles prennent 1%. C'est tant l'action, la Facebook était une entrée en bourse qu'ils voulaient avoir, qu'ils voulaient récupérer et gérer. J'ai fait un long laïus, Guillaume, tu t'es d'accord avec ce que j'ai dit ou j'ai dit des bêtises?
Oui, non, tu m'as même appris quelques éléments, parce que moi, les cordons de la bourse, si tu veux, la spéculation, toutes ces choses-là, ça m'échappe un petit peu. Oui. Cela dit, c'est très intéressant, et si je peux me permettre d'enchaîner un petit peu le...
Ah bah vas-y.
En fait, c'est moi ce qui m'a intéressé, alors ça passe au second plan, mais ce qui m'a intéressé, c'est tout le cinéma fait par Zuckerberg autour de ça pour montrer une certaine désinvolture. C'est-à-dire qu'il y a eu la polémique autour de son sweatshirt.
Ouais, que tu peux peut-être expliquer pour les gens qui n'ont pas suivi. Et là, on quitte un petit peu les questions de bourse. Donc, ceux qui étaient tendus à l'écoute de ces analyses financières peuvent se détendre. Vas-y.
Bah, je t'en prie, vas-y, parce que moi, je sais que je sais en surface, mais.
Ouais. Bah, en fait, c'est très simple. Hein. Zuckerberg, pour aller parler aux investisseurs potentiels et aux gens de Wall Street, il y allait avec son hoodie, vous savez, ce sweatshirt à capuche qu'il porte tout le temps, et ça a fait une sorte de scandale parce que certains ont dit, ah bah voilà, il y va, il a même pas mis de costume, donc il manque de respect aux gens qui, enfin, c'est un monde un petit peu sérieux. Dans ce monde-là, on met des costumes. Lui, il le fait pas, donc c'est manqué de respect. Il est pas sérieux, ça fait pas propre. Oui, bon, Facebook, enfin, il s'en fout, Zuckerberg. Je veux dire, d'une part, l'entrée en bourse, il voulait pas la faire, il a été obligé de la faire parce que bon. Peut-être d'une part pour lever de l'argent et ensuite parce qu'il y a cette fameuse règle Sarbanes-Oxley qui dit que si on a plus de 500 actionnaires, il faut absolument devenir une entreprise publique. Il faut révéler ses comptes et donc autant rentrer en bourse. Mais j'ai pas l'impression que c'était sa passion de rentrer en bourse. Ça lui emmagasine de l'argent, ça le rendrait très riche, ça permet à Facebook d'avoir un trésor de guerre énorme. Mais bon, lui, il sait que sa société est convoitée, donc il va pas non plus se plier en quatre et faire des trucs qu'il ferait pas. Au contraire, et puis on s'en fout, quoi, l'histoire de la...
Oui,
c'était un petit peu un caprice de vieux monsieur, j'ai eu l'impression, quoi.
Je suis toujours surpris par l'importance qu'on donne à ces choses-là, alors que moi, personnellement, je dois admettre que même pour un entretien, mettre une cravate, ça se révèle un petit peu compliqué. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que il y avait une telle désinvolture qu'au bout d'un moment on peut se demander si la question c'est pas plutôt de savoir si c'est pas plutôt les investisseurs qui ont besoin de Zuckerberg et pas Zuckerberg qui a besoin des investisseurs. C'est-à-dire qu'il a tendance à retourner les rôles et on voit très bien ce que devient Facebook. Là ça fait 8 ans que Facebook existe, on voit bien le chemin que ça a pris. Zuckerberg il mène sa barque, qu'il soit habillé en tongs ou qu'il soit en costard cravate.
Alors ouais, c'est
moi,
sûr.
Ce côté où l'argent devrait inciter au respect me dérange énormément. Moi je trouve ça ridicule.
Je crois pas que c'était ça l'idée, mais
moi je pense que l'argent devrait honorer le talent. Et c'est là toute l'histoire. Si on a du talent, alors on mérite de l'argent.
Ouais.
C'est tout le problème du mérite par rapport et en revanche, pour faire un parallèle, je pense que le pouvoir doit inciter au respect. Et pour faire le parallèle, je repense à la rencontre de Zuckerberg avec Obama, où là, pour le coup, il avait bien mis une chemise et une cravate.
Oui. C'est Redwin dans la chatroom nous rappelle qu'avec Sarkozy, il avait mis un costard aussi.
Voilà. Et donc, voilà, il y a une espèce de désinvolture face à l'argent, mais que face au pouvoir, en revanche, là, il met un costard-cravate. Bon, même si on sait qu'il portait également un jean et des baskets. Mais enfin, après, si on rentre vraiment dans les détails...
Oui, je crois que c'est comme l'histoire de... Enfin, il y a certains membres du nouveau gouvernement qui, effectivement, étaient venus en jean et en machin. Oui, il y a évidemment une question de respect à avoir, je pense que c'est clair, mais je pense pas que c'est par ce genre de choses qu'on peut juger du fait qu'on exprime du respect ou pas. Ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses, mais là, en l'occurrence, moi, ça me paraissait un petit peu surfait, quoi, l'histoire du hoodie. Bon. Ouais, mais ça a fait un vrai scandale, quoi.
Mais c'était une anecdote qui était même dans la biographie et dans le film. Donc en plus, le fait qu'il allait voir les investisseurs en pyjama et en tongs.
Ouais. Voilà, c'était carrément exagéré. Il s'est un petit peu assagi par rapport à cette époque, quoi.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est ça. Oui, c'était. Mais bon. Donc, autre chose toujours par rapport à cette entrée en bourse. D'une part, on va pas rentrer dans les détails, mais la machine Facebook a super bien fonctionné du côté de la communication et des perspectives qu'ils ont ouvertes pour l'avenir, pour montrer aux gens, oui, Facebook sera quelque chose de rentable. C'était très bien fait, et c'est pour ça, parce qu'à un moment, il y a eu un moment difficile où on pensait que Facebook ne réussirait pas à vendre toutes ses actions à ce prix-là, donc on était un petit peu inquiet, et ils ont très bien joué, très bien manipulé les choses, et ça s'est bien passé finalement. Une chose qui a beaucoup été discutée, c'est ce que vaut véritablement Facebook, et là, il y a énormément de calculs très savants entre les revenus et les revenus actuels d'aujourd'hui et la valeur totale et la manière dont on doit multiplier le nombre, la quantité de revenus pour obtenir la valeur, pour avoir quelque chose de raisonnable. Là, je m'y connais pas très très bien, donc je vais pas vous saouler avec. Je vais juste vous dire que les deux arguments qui se présentent, c'est il y a deux côtés, et Business Insider l'a très bien résumé. Ils disent les arguments pour l'idée que la valeur va continuer à augmenter. Ils disent Facebook a juste commencé à monétiser ses utilisateurs. Facebook peut ajouter des dizaines de nouveaux produits qui vont générer énormément des milliards de revenus. Il pourrait faire des paiements, des apps, des plateformes, etc. Et il pourrait avoir bientôt 2 à 3 milliards d'utilisateurs. L'argument contre tout ça, c'est Facebook n'a pas juste commencé à monétiser ses utilisateurs. Ils ont commencé il y a 4 ans, c'est Sheryl Sandberg qui a commencé, et ils y sont déjà depuis un moment, donc c'est pas juste le début. Deuxièmement, Zuckerberg a été très très clair en disant qu'il ne voulait pas que la mission de Facebook, c'était une mission sociale au sens au sens réseau social, hein, pas au sens social dans la société, donc c'est plus social que business. Et troisièmement, les prochains milliards d'utilisateurs de Facebook, s'ils arrivent, ils seront beaucoup moins monétisables que le premier milliard, parce que évidemment, ça sera des gens qui sont dans des pays beaucoup moins riches que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je vous laisse faire votre salade avec ça. Vous allez juger de ce qu'il est peut-être possible de faire ou pas et de la valeur de Facebook. Ce qui est clair, c'est que personne n'a la réponse la réponse ultime et la réponse juste. Si on savait avec certitude ce qui allait se passer, on serait peut-être, celui qui le saurait serait beaucoup plus riche que nous. Mais une petite piste peut-être, c'est un truc que j'ai trouvé très intéressant, la possibilité pour Facebook de devenir régie publicitaire. Et il faut se souvenir que Google, à l'époque de leur entrée en bourse, ils n'avaient pas vraiment de modèle non plus, de modèle économique, et que c'était le potentiel qui a attiré les gens, et finalement ils ont réussi à le développer. Et là, en l'occurrence, il y a des indices qui nous laissent penser que Facebook pourrait se transformer en régie publicitaire, c'est-à-dire que il vendrait de la pub sur d'autres sites que Facebook. Je vous explique comment ça marche, et là on revient un petit peu dans la technique. Si vous êtes connecté sur Facebook, vous allez sur le site, par exemple, nowatch.net. Sur le site nowatch.net, il y a une pub qui va afficher, enfin un espace de pub qui va afficher une pub qui se connectera à votre profil Facebook, géré par Facebook, et Facebook sait que vous aimez, au hasard, les poivrons et les asperges. Eh ben, ils vont vous afficher une pub sur le marché de Guillaume, qui ouvre son marché frais tous les mercredis au but Chaumont, et il vous affichera une pub comme ça, dont il saura que ça va vous intéresser, puisqu'il connaît vos informations sur Facebook, depuis Facebook, qui a énormément d'informations sur vous. C'est comme ça que fonctionne la pub sur Google aujourd'hui. Ils essayent d'en savoir autant que possible sur vos habitudes de surf, sur vos recherches pour cibler les pubs. Mais Facebook en sait beaucoup plus. Et cette idée est très intéressante parce que ça monétiserait ces connaissances qu'ils ont sur vous à l'extérieur du site Facebook de manière très intelligente. Et c'est une chose à laquelle on n'a pas forcément pensé. Enfin, il y a plein de gens qui y pensaient depuis un moment, mais c'est une nouvelle approche du truc et c'est l'un de ces moyens qui pourrait nous permettre, qui pourrait permettre à Facebook de monétiser de manière très très efficace leur social graph dont on parle depuis longtemps, leur connaissance de votre entourage et de vos préférences sur leur site. Donc, c'est un élément. On est sûr qu'il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais moi, je reste convaincu que. Alors, je sais pas du tout ce que vaut Facebook. Je reste convaincu qu'ils réussiront à monétiser leur plateforme. C'est certain. Et surtout, je l'ai dit plusieurs fois, Zuckerberg est très très intelligent. Il gère très très bien sa barque. Donc, c'est vraiment, comme tout le monde le dit, en lui qu'il faut décider d'avoir confiance ou pas. Moi, je pense que oui, il va réussir à faire quelque chose de très intéressant, encore plus intéressant qu'aujourd'hui.
Et la publicité fait d'ailleurs polémique, en fait, puisque techniquement, les observateurs se demandent comment ça se concrétiserait, parce qu'ils ont peur que Facebook finisse par avoir la mainmise absolument sur toutes les données marketing des visiteurs, même lorsque les gens ne sont pas sur Facebook. Et donc,
bien
ça crée un problème de vie privée.
Bien sûr.
Mais le problème de vie privée est déjà posé par Google. En fait, il n'y a strictement rien de nouveau. Là où ça fait bizarre par rapport à Facebook, c'est que, en fait, même quand on n'est plus sur Facebook, on aura un cookie Facebook qui sera là en tâche de fond et qui rapatriera toutes les données des sites qu'on a regardés. Quand on reviendra sur Facebook ou quand on ira sur d'autres sites, s'il y a des pubs Facebook, elles seront optimisées pour correspondre à de la publicité publicité ciblée. Et en fait, moi, personnellement, c'est toujours la même histoire. Je préfère être abreuvé de publicité ciblée que d'avoir de la publicité non ciblée façon ménagère de 45 ans, comme on a à la télévision.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est bon. D'une part, il faut être connecté sur Facebook pour que ça marche. Donc, encore une fois, si le produit est gratuit, c'est vous le produit. On le dit souvent, mais c'est le cas. Et c'est même le cas pour nos émissions. Hein. Je veux dire, je suis pas en train de jeter la pierre. Nos émissions, le seul moyen qu'on a de monétiser. Bon, on vous parlera du fan shop dans quelques temps, mais pour continuer à faire nos émissions de manière vraiment professionnelle et sérieuse, il faut bien qu'on essaye de monétiser les choses. Et l'un des seuls moyens, c'est effectivement de mettre de la pub. Donc, je pense que c'est un peu moins gênant que les histoires de pub sur Facebook. Mais c'est quand même bien le cas. On doit faire de la pub nous aussi. Donc, je suis un petit peu. C'est peut-être un petit peu plus contrôlé, un petit peu moins invasif quand même que Facebook ou Google. Donc, ça va nous jeter pas encore au bûcher. Dernière chose, le cofondateur de Facebook voudrait quitter les États-Unis pour éviter de payer trop d'impôts à l'avenir. Évidemment, c'est le fameux Savarine, Eduardo Savarine.
Il s'en défend, hein.
Oui, alors il dit « je paierai tous les impôts que je dois payer pour l'argent que j'ai fait aux États-Unis ». Bon. Bref, c'était un petit truc comme ça, et les Américains sont pas contents. Mais
non, mais ça faut savoir qu'en fait, c'est parce qu'il vit à Singapour et qu'à Singapour, en fait, on ne paye pas d'impôt sur le capital. Donc, du coup, il se dit, comme il y est déjà depuis 2 ans et demi, je crois, à Singapour, il se dit, il y a une opportunité. Enfin, il se dit peut-être que c'est peut-être opportuniste, mais lui, il se défend du contraire.
Ouais. Disons que s'il vit à Singapour depuis 2 ans, mais est-ce qu'il y est allé pour ça, dans cette idée? Il s'est dit, le jour où Facebook fait son entrée en bourse, Bref, je vous laisserai méditer sur la chose et on va passer à un sujet bien plus passionnant, en tout cas moi qui m'intéresse beaucoup, c'est Windows, Windows 8 plus spécifiquement, et les différentes nouvelles qu'on a eues sur le sujet. La première, c'est le changement d'interface, de l'interface desktop de Windows 8. Vous vous souvenez bien sûr que avec Windows Vista, on avait eu cette interface Aero, qui est cette interface Aeroglass, qui est donc l'interface avec des fenêtres un petit peu transparentes au travers desquelles on pouvait voir. Et ben figurez-vous qu'elle va être abandonnée dans Windows 8. Alors je sais pas si elle sera disponible en option, mais l'interface par défaut sera une autre interface qui est beaucoup plus plate, beaucoup plus métro-like là encore, et qui est peut-être même un petit peu plus simple. Bon, ça change pas les fonctions de l'interface. Il y aura toujours le menu ruban et toutes ces choses-là. Donc, pour les gens qui ne s'y retrouvent pas, vous ne vous y retrouverez pas plus dans cette interface desktop. Mais c'est plus plat, ce nouveau design qui tend vers la simplicité. Moi, je trouve ça... Bon, j'attends de tester, mais je trouve ça pas trop mal, finalement.
Ce que j'ai vu me plaît beaucoup, moi aussi.
Ouais, c'est... à vos souhaits, mademoiselle.
Non,
je t'en prie. Oui, donc bon, vous pourrez voir ça. Il y a des images un petit peu partout, enfin sur le blog de Microsoft, plus particulièrement, qui est blogs.msdn.com/b/b8. Voilà, vous avez l'adresse. Et bon, c'est joli. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, mais c'est je sais pas. J'attendrai voir, mais en tout cas, c'est plus plat. Au bon sens du terme. Autre chose qui fait peut-être plus sujet, qui porte peut-être un petit peu plus à la polémique, c'est l'inquiétude de Mozilla, donc la société qui gère Firefox, et Google, sur le fait que ils ne pourront pas... Alors attention, c'est compliqué. Hein. Vous savez que dans les versions dans Windows, il y a l'interface desktop et l'interface Windows Phone, enfin l'interface métro, donc cette interface très simplifiée. Eh bien, dans les versions ARM, donc dans les versions plutôt tablettes de Windows, donc qui n'auront pas une interface desktop complètement développée, il ne sera pas possible d'installer des programmes pour l'interface desktop. Il sera uniquement possible d'installer des apps dans l'interface métro. Et Mozilla et Google s'inquiètent parce qu'ils disent ça va poser un problème d'ouverture, puisqu'on ne pourra pas avoir nos navigateurs dans l'interface desktop. Ça sera uniquement le navigateur Internet Explorer. Alors, vous me direz, par exemple, sur iPhone ou iPad, on ne peut pas vraiment installer de navigateur externe. Il y a des navigateurs qui existent, mais ils se basent tous sur le navigateur, sur WebKit, qui est le navigateur Safari. Et c'est pas vraiment... Bon, c'est peut-être choquant sur iOS, mais les gens s'y sont habitués et les gens ne s'en plaignent pas vraiment. Mais sur Windows, le problème, c'est qu'il y a ces deux interfaces. Alors, l'interface desktop n'est là que pour certaines applications spécifiques. Il y aura une version d'Office et quelques petites choses spécifiques, toujours en version ARM, hein, bien sûr. Sur les versions sur processeur Intel, l'interface desktop sera totalement complète, on pourra y faire ce qu'on veut. Mais sur ces processeurs ARM, qui seront plutôt orientés vers la mobilité, vers les tablettes, on ne pourra pas. Et si jamais Microsoft avait dit, bon, bah, sur ces appareils, on n'a que l'interface métro qui est plus simple et plus mobile, avec laquelle on peut installer des apps, peut-être que ça n'aurait pas vraiment posé de problème. Mais comme il y a cette interface desktop, et que sur cette interface desktop, il y a Internet Explorer, là, ils disent, c'est injuste, il faudrait pouvoir installer aussi nos navigateurs, donc Firefox et Chrome. J'ai pas vraiment de réponse ultime à cette question, j'ai pas la bonne réponse, parce que l'interface desktop sur ces appareils est vraiment là pour pallier au manque urgent. L'idée n'est pas de pouvoir faire installer n'importe quel navigateur ou n'importe quel programme même. Parce que si on se met à installer n'importe quel programme sur ces appareils prévus pour la mobilité, ils vont ramer, ils vont pas pouvoir tenir le coup. Et donc, si on autorise l'installation des navigateurs, pourquoi ne pas autoriser d'autres choses? Je sais pas. Je suis et pourtant moi je suis un grand fan de Chrome hein. Comme le dit Gloom dans la chatroom, IE10 c'est pas mal mais Chrome forever. Bah oui, moi je suis complètement super fan de Chrome, mais là il y a des raisons techniques pour lesquelles on pourrait pas le faire. Donc peut-être que comme le disait Seredwin, l'Union européenne s'intéressera à cette histoire comme ils sont intéressés au monopole, aux histoires de monopole de navigateurs sur Windows, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui en Europe la possibilité de choisir le navigateur qu'on installe à la première installation de Windows. Je sais pas, ouais, Guillaume, toi, c'est...
Oui, c'est même une approche hypocrite, parce que le fait de pouvoir mettre le navigateur qu'on veut sur Windows 7, par exemple, c'est évident qu'on pouvait le faire. Il fallait juste inciter les gens. La Cour européenne a juste décidé qu'il fallait inciter les gens à pouvoir installer un autre navigateur, alors que de toute façon, même sans les inciter, ils y pouvaient déjà le faire.
Mais c'est plus compliqué.
Oui, mais toute la problématique, c'est la convergence qu'il y a de plus en plus entre l'OS et le navigateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'un va devenir l'autre. Et déjà, depuis Windows XP, on se rend bien compte que Internet Explorer est en train de devenir à la fois l'explorateur de fichiers, l'explorateur global du desktop, et en même temps le navigateur. Donc du coup, quand les gens disaient « Mais si je veux désinstaller Internet Explorer, je peux pas le faire parce que sinon mon OS ne marchera plus comme avant », c'est un fait. Donc cette convergence-là crée des problèmes, et quand on en arrive à des produits mobiles, ils se posent encore plus. Maintenant, j'ai du mal vraiment à voir le souci, dans la mesure où si ça reste des applications, on peut continuer d'installer Chrome sur un, enfin on peut installer Safari, Firefox, on peut installer Firefox sur un iPhone, on peut installer
Firefox sur un iPhone, non, on peut pas. Hein.
On peut pas.
Non, il y a pas. On peut utiliser que.
Non, c'est Opera. Non mais.
Oui, il y a Opera mobile qui est effectivement qui a des petites spécificités. Oui,
ça fait longtemps que j'ai pas d'iPhone.
Ouais.
Mais oui, non, mais.
Si
non,
on peut, me dit Kamesenine, on peut avoir Firefox sur un iPhone. Ça me paraît étrange, ça. Je vais tester. Continue à parler, je reviens.
D'accord. Et en fait, par contre, on peut avoir Firefox sur un Android. Ça j'en suis complètement certain. Et donc voilà. Donc tout le problème, c'est de se dire, est-ce qu'on peut installer un navigateur sur un mobile? Et la réponse, pour l'instant, est oui. Donc à moins qu'il y ait une exception sur Windows 2008, enfin Windows 8.
Mais non, parce que sur un mobile, enfin sur Windows Phone, je pense qu'on peut pas. Sur iOS, il y a plein de gens qui me disent. Alors attends, non, oui, jailbreaké, on peut, mais non, mais Firefox Home, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui me disent Firefox Home, c'est pas vraiment le navigateur complet.
Firefox était un mauvais exemple, mais je veux dire, sur le principe, Opera, par exemple, c'est vraiment le cas. Opera.
Non, mais là encore, c'est pas le moteur d'Opera. Bon, bref, on part dans les questions techniques, spécifiques, mais vous l'aurez compris, c'est une polémique assez forte qui s'ouvre.
Un truc qui pourrait illustrer le problème que ça pose, c'est par exemple si Google sortait vraiment un OS qui serait Chrome OS.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Qui là, lui, serait vraiment avec Chrome dans son cœur.
T'as tout à fait raison de le signaler. Ils ont Chrome OS sur leurs ordinateurs et il y a les ordinateurs Chrome OS, les ordinateurs Chrome, et on peut pas installer autre chose que Chrome puisque Chrome est l'OS. Donc Bon, bref, c'est un petit peu tiré par les cheveux cette histoire, mais on suivra l'affaire de toute façon. Je suis pas certain de pouvoir dire s'ils ont effectivement raison ou pas. Peut-être que quand j'y aurai réfléchi pendant quelques semaines de plus, je pourrai vous donner une réponse avertie. Toujours chez Microsoft, ils ont sorti il y a 24 heures à peine, en plein dimanche, leur réseau social donc, qu'on avait évoqué il y a très longtemps, qui s'appelle Social, so.cl, so.cl, qui est disponible donc depuis quelques heures. Moi, je suis allé y faire un tour. J'ai bien sûr créé mon compte sur Patrick Béja, mais l'idée, en fait, c'est pas vraiment de créer un réseau social, d'après ce que j'ai compris. L'idée, c'est de faire de la recherche sociale. Et c'est franchement, je vais être clair, je comprends pas. C'est la première fois depuis très longtemps où je vois un produit technologique ou sur Internet que je ne comprends pas. Je sais pas bien ce que ça fait, ce que ça propose, quel avantage ça a. C'est pas vraiment un réseau social. Je sais pas. Est-ce que t'as compris, toi, ce que c'était, Guillaume?
Alors, quand tu dis c'est de la recherche sociale, je trouve que ça résume assez bien la chose, puisque c'est Bing est complètement au cœur du moteur, enfin du système. Moi, ça me rappelle. Je l'ai pas testé, hein. Je l'ai pas testé. En revanche, j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet et ça me rappelle quelque chose qui s'appelle Portrees, qui a l'air de fonctionner un petit peu de la même façon. Portrees, je l'ai testé, où on se retrouve avec en fait des liens de référence qu'on aurait et qu'on souhaiterait, qui deviendraient partageables. C'est-à-dire on partage du lien. On partage plus forcément.
On partage de la recherche ou on.
C'est-à-dire, on partage des résultats de recherche, oui.
L'idée, c'est que tu vas sur social, donc so.cl, pour faire tes recherches au lieu d'aller sur Bing, c'est ça?
Voilà. En fait, c'est comme si on avait.
Une fois que tu as trouvé quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, je vais chercher No Watch sur social, sur mon compte. Alors, je cherche No Watch. Il y a des images, Facebook profil, enregistrement, d'accord, j'ai John Plisken qui me regarde, voilà. Bon, alors les émissions en pleine dans le web. Si je clique, ça m'ouvre une autre fenêtre qui m'ouvre le site de No Watch, ok. Et je peux ajouter un post, donc ajouter à une mise à jour. Ok, j'ai cliqué dessus, il se passe rien, mais c'est... ok. Ah oui, si, non, voilà, mais... c'est ajouté à mon post. Et donc, je peux mettre une update sur le réseau avec le lien vers No Watch. Mais si je vais chercher si je vais faire une recherche sur un moteur de recherche, c'est pas pour poster une update, c'est pour aller quelque part vers un truc que je recherche. Donc,
enfin, visiblement, ils essayent de prendre à contre-pied les utilisateurs de Facebook en leur donnant de l'information avec un autre angle. Donc, en fait, là, tout de suite, on voit pas ce que ça donne concrètement. Moi, j'ai vu un exemple concret quand même qui m'a intéressé. C'est au niveau du partage de vidéos. J'ai vu qu'apparemment, on pouvait inviter des amis à regarder et à commenter des vidéos en direct live. C'est-à-dire que on rassemble des amis à distance et on leur dit, je veux vous montrer telle et telle vidéo. Eh bien, on lance les vidéos comme si on invitait les gens à regarder une vidéo en même temps que nous.
Un peu comme les bulles de Google+, quoi. On peut faire les bulles, tu sais, tu connais les bulles de Google+, non?
Oui, je connais, mais
on peut
vraiment, c'est-à-dire que si tu lances la vidéo chez toi, YouTube, elle se lance en même temps chez la personne.
Oui, c'est exactement. D'accord. Oui. C'est YouTube uniquement, si je ne m'abuse, mais bon, quand même, quoi.
Voilà, y a cet aspect-là qui a été mis particulièrement en avant. Donc j'imagine qu'elle propose des choses en plus par rapport à Google+, mais le fait est que soit ils l'ont sorti trop tôt, soit ils n'ont pas assez expliqué ou pas assez exploité le truc pour le moment.
C'est vraiment un manque d'explication, quoi. Je sais pas. C'est vraiment tout le monde est perplexe face à ce truc et je sais pas. Bref, donc tu fais une recherche. T'as trouvé quelque chose et tu fais donne et enfin on comprend rien. Donc, et pour que moi je comprenne pas un truc comme ça, c'est que vraiment, enfin, Madame Michu, elle va pas comprendre non plus. Je crois que le truc qu'on peut en conclure, c'est que la, oui, il y a Autodoc dans la chatroom qui dit ça a l'air vraiment naze. Bah oui, moi je suis complètement éberlué, je comprends, ça ne sert, enfin, pour, là, ça sert pas à grand chose, quoi. Je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un rapprochement entre le social et la recherche, de la même manière que Google a créé Google Plus et que c'est un axe majeur de leur stratégie, et de la même manière que Bing a récemment initié cette a eu cette initiative Bing plus social qui ajoute des éléments de social dans leur recherche. Là, c'est encore un autre effort dans ce sens-là. Peut-être que on comprendra un petit peu plus dans les jours qui viennent. D'ailleurs, si vous y comprenez un petit peu plus que nous, venez sur nowatch.net sur le blog de l'émission et expliquez-nous, parce que je serais vraiment curieux d'avoir ces explications.
Et puis le truc qui tue un petit peu, c'est que pour pouvoir utiliser Social, il faut soit avoir un compte Facebook, soit avoir un compte Windows Live. Ouais. Et à mon avis, Windows Live, c'est pas le meilleur levier pour inciter les gens à s'inscrire. Déjà pour le Xbox Live et compagnie, j'ai un peu du mal.
Mais alors là, je vais t'interrompre tout de suite, parce que Windows 8 a besoin d'un compte Windows Live. Et donc, tout le monde aura un compte Windows Live, d'accord, quand on passera sur Windows 8. Enfin, tu peux garder en local, mais l'un des gros intérêts de Windows 8, c'est que si tu retapes de n'importe quelle machine, tu te connectes, et ben, tu vas avoir une partie de tes informations disponibles.
D'accord. Donc, mais en fait, l'aspect aussi, c'était la polémique qui pouvait naître du fait qu'on se retrouvait avec un concurrent à Facebook. Et en fait, Microsoft a fait des communiqués.
Ah ben, ils sont très investis dans Facebook, oui.
Oui, mais ils ont fait des communiqués de presse pour expliquer qu'il n'y avait pas de concurrence du tout. De fait, quand on regarde à quoi potentiellement peut servir Social, on voit pas bien de quelle manière ça pourrait rentrer en concurrence.
Ouais. Ouais, ouais. Autre sujet toujours intéressant et toujours auquel on comprend pas forcément tout, mais qui là pour le coup un petit peu différemment de Social pourrait être intéressant. C'est l'annonce de Nvidia à propos de leur nouveau processeur graphique Kepler. Alors, je vais vous la faire courte. Les processeurs Kepler sont des processeurs qui sont spécialisés pour le cloud. Vous savez, si vous suivez le rendez-vous tech depuis un moment, qu'il y a de plus en plus de services qui vous proposent de jouer à des jeux ou des services de bureautique même qui vont travailler dans le cloud. C'est-à-dire qu'il y a un ordinateur quelque part qui va exécuter le jeu ou l'application, et vous y connectez et vous n'avez que la vidéo qui va arriver. C'est-à-dire que si vous jouez à un jeu, à un FPS, le jeu va s'exécuter sur la machine distante, dans le cloud, sur Internet, et vous avez la vidéo qui s'affiche, et vous faites vos mouvements sur votre clavier chez vous, bien sûr. Ces mouvements sont envoyés à l'ordinateur distant, et les résultats de l'image, les mouvements, sont renvoyés vers vous en vidéo. Donc, ce que ça veut dire, c'est que sur n'importe quelle machine, à partir du moment où elle peut transmettre suffisamment de données pour afficher de la vidéo suffisamment vite, et que le lag est suffisamment court et suffisamment bon pour ne pas donner trop de décalage, eh ben vous pourrez jouer à n'importe quel jeu sur n'importe quelle machine, même un tout petit ordinateur minuscule qui n'a quasiment pas de puissance, et donc qui a une durée de vie très longue et moins de batterie, etc. Donc ça, c'est un petit peu vieux, hein. Il y a des services comme OnLive ou Gaikai qui proposent ce genre de
ouais,
choses.
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
Et ce qu'a fait Nvidia, c'est qu'ils ont annoncé cette nouvelle puce qui est spécialisée là-dedans. Alors, je ne sais pas du tout en quoi techniquement elle est spécialisée là-dedans, mais visiblement elle est designée pour faire les choses mieux que les autres pour ce type d'application. Et on parle de jeux bien sûr, mais ça peut s'appliquer aussi à par exemple faire tourner Windows sur une tablette, Windows 7 par exemple sur une tablette, sur un iPad, etc. Il y a des choses qui permettent de le faire. Bon, pourquoi pas. Moi je dis, si on ce genre de technique a certains désavantages, mais beaucoup d'avantages aussi. Si c'est possible à développer, et que, à mon avis, c'est pas pour tout de suite, mais dans les 1, 2, 3 ans à venir, ça peut devenir vraiment généralisé, pourquoi pas ? Ça peut être un service vraiment intéressant, et si ça peut aider, ben, très bien.
Ce qu'on comprend, en gros, c'est qu'il y a des calculs qui sont déportés dans le cloud, et que du coup, ça devrait libérer de la performance pour le processeur vidéo en local.
Oui, mais voilà, c'est assez
flou. Maintenant, moi, j'ai trouvé que c'était une annonce très marketing. C'est-à-dire que j'ai eu la sensation en lisant ça qu'il fallait absolument que Nvidia soit les premiers à en parler et que, quitte à en parler trop tôt, mais être les premiers. Parce que je pense que AMD avec ATI vont arriver juste derrière avec quelque chose d'à peu près équivalent. Et moi, je pense que ça sera forcément intéressant pour de la virtualisation, pour le cloud, pour améliorer des technologies pour des applications comme OnLive. Mais le truc, la contrepartie que je me dis, l'écueil qu'il va falloir éviter, ça sera qu'au bout d'un moment, à force de solliciter Internet pour absolument tout, on va se retrouver dans un fonctionnement technologique où Internet va devenir aussi indispensable que l'électricité.
C'est déjà le cas, hein, ça, on y arrive de toute façon.
Mais sauf que pour le moment, non mais certes, mais pour le moment,
il y a encore un petit peu d'indépendance, oui, mais
en Finlande, ils ont décidé que Internet était un droit constitutionnel, etc. Oui. C'est le seul pays à avoir fait ça. Ce que je veux dire, c'est qu'au même titre de l'électricité, il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à Internet de manière libérée, voilà. Mmh. Et je me dis,
moi, je pense que c'est dans cette direction qu'on va et que. La réaction à avoir, à mon sens, hein, en tout cas, c'est pas de se dire ah bah oui mais ça va être gênant si jamais Internet disparaît. C'est le fait de se dire donc il faut s'assurer que tout le monde a accès à Internet tout le temps et de manière très très efficace quoi qu'il arrive et considérer Internet comme un droit considérer Internet comme l'électricité. On va pas couper l'électricité à qui que ce soit.
Je suis entièrement d'accord avec toi, seulement je suis assez pessimiste.
oui c'est vrai. Écoute, notre cher nouveau président a dit que il était l'un de ses plans de campagne, l'un de ses projets, c'était d'amener Internet à tous les citoyens, alors à des vitesses qui sont pas vraiment mirobolantes mais qui sont au moins du haut débit entre guillemets. Je crois que c'est 1 mégabit pour tout le monde, quel que soit l'endroit où ils habitent, dans toute la France. Donc il y a quand même une volonté de gérer cette infrastructure au niveau national et par l'État, enfin le faire un petit peu comme l'électricité, quoi.
Oui, espérons.
Lionel G dit même l'électricité n'est pas un droit, EDF peut couper le courant. Bien sûr, on peut couper le courant quand tu payes pas ton électricité, c'est évident. Mais c'est pas de ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est que si jamais tu, là, on en revient à parler de des histoires de Hadopi et tout ça, si jamais tu télécharges un truc illégalement, on peut. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse t'inculper pénalement parce que tu as fait quelque chose d'illégal, mais on va pas te couper Internet au même titre qu'on va pas te couper l'électricité, tu vois. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'il faudrait, à mon sens, un effort sociétal pour développer l'infrastructure du net, au même titre qu'on a eu des efforts sociétaux pour les infrastructures des routes, du chemin de fer, de l'électricité, de l'eau. Ce genre de choses, quoi. Ça fait partie des infrastructures. Mais bon, par contre, oui, si tu payes pas ta facture Free pendant 6 mois, ils vont te couper Internet. Ça c'est clair, oui. C'est pas Free, Free, ça veut pas dire gratuit vraiment. Hein, c'est juste le nom de la société. Free, c'est pas gratuit.
Bon. Non, mais ce qui serait génial, ça serait d'avoir un Internet global où on s'affranchit de tous ces problèmes-là, ouais. Et puis on a une espèce de connexion Wi-Fi disponible. Tout le temps, voilà.
Ah, oui. Eh ben, écoute, justement, en parlant de Wi-Fi, il y a des choses qui se passent dans le monde merveilleux du Wi-Fi. Est-ce que tu connais le Wi-Fi AC?
Alors, je connaissais pas.
802.11 AC.
Moi, je connaissais le B. Je connaissais pas encore le AC.
D'accord. Bon, t'es un petit peu en retard parce que le dernier c'est le G. Donc il y avait quand même une génération de plus.
Le B, c'est celui qu'on a tous en fait. C'est pour ça que je le connais.
Oh, maintenant les gens ont le N depuis un moment quand même.
Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, tout à fait.
Oui. Mais bon. Donc le N, c'est le dernier réseau le plus rapide. Enfin, les dernières normes Wi-Fi les plus rapides, viennent d'être. Alors, c'est compliqué, mais comme c'était le cas à l'époque, il y a des fabricants qui sortent des réseaux, des appareils sous la nouvelle norme, la norme AC, donc le 802.11 AC, qui est encore plus rapide. Et le problème, c'est que cette norme n'a pas encore été ratifiée par l'IEEE, qui est l'organisme de ratification des standards. Et donc, les appareils qui sont en train de sortir sont peut-être pas compatibles avec les appareils qui sortiront une fois que la norme aura été ratifiée. Mais ils seront peut-être compatibles quand même. Et en plus, ça va prendre du temps à être ratifié, comme c'était le cas avec les autres standards. Il y avait des équipements qui étaient sortis un petit peu avant qu'ils soient ratifiés, 6 mois, 1 an. Et en plus, le truc, c'est qu'ils ont énormément d'avantages et que donc tout le monde va les vouloir. Donc il va y avoir une période de flottement de 6 mois, 1 an, on va dire, où les choses vont être en train de s'installer. Mais ça sera pas complètement durable. Mais juste pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, je vais vous donner juste un chiffre. On peut atteindre des vitesses de 5 à 7 gigabits par seconde, ce qui est énorme. Ça fait, bon, pour vous donner un équivalent pratique, c'est 1 gigaoctet, à peu près, un petit peu moins d'un gigaoctet par seconde. C'est-à-dire que c'est aussi rapide, voire plus rapide que le USB 3, qui n'est pas vraiment encore implémenté partout, qui commence à arriver un petit peu partout. Donc, ça voudrait dire que on pourrait vraiment se passer des câbles, c'est-à-dire que c'est aussi, enfin, suffisamment rapide pour faire à peu près tout ce dont on a besoin. Il y a très peu de transferts de données qui auraient vraiment besoin de vitesse plus rapide que celle-ci. Donc même une connexion filaire à votre réseau Ethernet ne sera pas forcément nécessaire. Donc
on baisserait Lionel les taux de latence.
Pardon, vas-y.
Pardon, je disais, on baisserait les taux de latence à un point que le streaming deviendrait possible, même pour jouer à des jeux vidéo, pour le coup.
Par exemple, oui. Donc, bon, c'est un petit peu, comme je vous disais, pour vous donner l'eau à la bouche, je pense que pour être un petit peu raisonnable, il faudra pas s'y intéresser avant encore 6 mois, 1 an, pour que ça soit un petit peu plus standardisé.
Et puis, il faut juste se méfier de la différence qu'il y a entre le débit théorique et le débit réel, parce qu'ils nous annoncent toujours un débit théorique et souvent il faut diviser les chiffres par 5, 6, voire 7.
Là, en l'occurrence, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des techniques du type, il y a plusieurs antennes et quand il récupère un signal, il va concentrer tout le signal sur une antenne pour pouvoir vraiment avoir un signal de bonne qualité. Enfin, donc on pourrait vraiment effectivement avoir des trucs qui fonctionnent, peut-être pas au débit maximum théorique, mais un débit raisonnable.
Ah, mais ça fait très envie en tout cas, ouais, c'est clair.
C'est sûr. Écoutez, on va faire une petite pause et vous parler de nos sponsors, puisqu'on en a deux, avant d'enchaîner avec les news et rumeurs. Et donc, pour les sponsors, je vais commencer par Comic-Con Paris, qui, comme l'année dernière, va accueillir No Watch. Et j'espère que vous serez nombreux à venir nous voir sur notre grand stand. Moi, normalement, j'y serai le vendredi et le samedi, donc j'espère que vous viendrez me dire bonjour. En tout cas, le samedi, c'est sûr. Ça sera du 5 au 8 juillet 2012. Et alors, Comic-Con, ça se présente plus vraiment. Je vous le rappelle à peine pour le cas où vous seriez tombé dans un puits et que vous auriez oublié que c'est en juillet à Paris. C'est le festival des cultures. Je crois que le titre officiel était en tout cas le festival des cultures de l'imaginaire. C'est sur les comics et le monde des comics et des jeux vidéo et tout ce qui entoure tout ça. Il faut savoir que le billet de la Comic-Con vous donne aussi le droit d'entrée à la Japan Expo, puisqu'ils arrivent en même temps. Donc, vous pouvez acheter un billet et vous pourrez aller aux deux. Donc, c'est une valeur intéressante. Et dans tous les cas, c'est déjà une expo super sympa à laquelle vous devriez aller si vous pensez que vous êtes un petit peu geek. Si vous n'y êtes jamais allé, vraiment, ça vaut le coup. C'est un truc à voir, quoi. C'est une expérience. C'est vraiment cool. On est à 45 jours, donc il est temps de vous acheter vos billets, parce que généralement il n'y en a pas pour tout le monde. Normalement on devrait avoir une bannière sur le site. Elle est là, je la vois. Si vous voulez acheter un billet, faites-moi plaisir, passez sur le site, vous allez sur nowatch.net et puis vous scrollez un tout petit peu en bas et puis à l'endroit où il y a toutes les publications, il y a un petit bandeau Comic-Con. Si vous cliquez dessus, eh ben ça nous aide forcément, puisque ça dit à Comic-Con que vous êtes passé par nous pour acheter votre billet. Et donc, comme je le disais, ça vaut le coup de toute façon. Mais en plus, nous on y sera. Donc, vous pourrez venir nous voir. L'année dernière, on s'est super bien marré. C'était vraiment sympa de tous vous rencontrer. On a fait des émissions en live, tout ça, tout ça. Et cette année, ça va être encore mieux. On va faire encore plus de trucs. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux nous dire bonjour. Quand je dis nous, c'est tous nos watch. Hein. Il y aura presque tous les animateurs. Enfin, une bonne partie en tout cas. Il y aura enfin, venez, vous ne le regretterez pas. Enfin, je pense et je l'espère. Autre chose, c'est le Fan Shop No Watch que vous connaissez maintenant. Il y a deux boutiques dont une est en jachère. Le Workshop, qui est là pour faire des t-shirts, est en jachère en ce moment. Et donc, il y a pour le moment juste le Fan Shop. Et le Fan Shop, c'est une boutique qu'on a un petit peu réimaginée et imaginée nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont designés par les instances designeuses de No Watch. Il y a des planches vinyles, vous savez, des calcomanies à mettre sur vos appareils mobiles ou sur vos ordinateurs. Il y a des stickers métal, enfin, vous savez, les trucs un petit peu plastiques qui sont durs, des planches de stickers normaux, il y a des badges, etc., etc. Plein de petits produits vraiment sympas. Il y a des packs qui sont pas trop chers. Et à propos de pas trop chers, c'est vrai que la boutique précédente, c'était, les produits commençaient autour de 15 ou 20 euros. C'est vrai que c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Si vous voulez filer un petit coup de main comme ça, et ben là, il y a par exemple des écussons qui commencent à 5 euros. Donc ça va de 5 à 20 euros pour les prix. Des produits individuels, donc c'est un petit peu plus abordable, c'est encore plus personnalisé par No Watch, c'est-à-dire qu'on les fait vraiment, on les envoie nous-mêmes, etc. Donc tout l'argent nous revient en plus, donc c'est encore plus un moyen de nous soutenir. Et moi, je pense que ça vaut vraiment le coup, c'est des trucs sympas. Donc en tout cas, allez y faire un tour, c'est nowatch.net et vous allez sur les boutiques ou alors directement nowatch.net/fanshop. Regardez, jetez-y un coup d'œil, je pense qu'il y a des trucs qui vous plairont. Voilà pour les sponsors et on va conclure l'émission avec les news et les rumeurs. Une série de petites news comme ça, HP supprime 25 à 30 000 emplois. Enfin, c'est colossal, moi, c'est le chiffre qui me fait presque, enfin, je suis éberlué, quoi. 25 à 30 000 emplois, c'est monstrueux.
C'est énorme.
HP, c'est vraiment une grosse boîte.
C'est-à-dire qu'HP, quand ils ont racheté EDS en 2008, ils totalisaient 325 000 employés, ce qui est déjà colossal. Il y a peu d'entreprises qui peuvent, où la comparaison est faisable. Du coup, 25 000 employés, on se rend compte que ça fait, je crois, ça fait
12%. Ouais, là ils sont à 320 000 employés, donc ils ont déjà un petit peu dégraissé, et ils suppriment environ 10 à 12 à 15%. Ouais.
D'accord.
C'est Whitman qui l'a annoncé.
Visiblement, ils ont étalé dans le temps parce qu'en fait, moi j'ai retrouvé une news de septembre 2008 où on nous annonçait que 24 700 employés allaient être virés dans les 3 années à venir, c'est-à-dire entre septembre 2008 et septembre 2011.
Ah bah oui, là ils s'y remettent.
Donc en fait, les 25 000, j'avais juste un doute, c'est-à-dire que les 25 000 qui étaient annoncés en 2008 ont effectivement été virés, et là il y a à nouveau une charrue de 25 000.
Ouais.
Donc.
Ouais. Donc bon, voilà, HP, c'est pas la super forme, ou peut-être, enfin bon, je pense que c'est pas évident quoi ce business. Il fut une époque, c'était pas compliqué, tu faisais des ordinateurs, tu les vendais et voilà. Aujourd'hui, avec l'avènement du mobile, ça chamboule vraiment tout quoi. Et je pense que c'est lié, cette décision est liée au chamboulement du marché. On vous parlait du président de Yahoo la semaine dernière, enfin pendant le dernier épisode, avec ses histoires du fait qu'il ait bidonné son CV. Et ben finalement il a été viré, donc voilà, c'est réglé. Il a été mis dehors, donc on se posait la question, est-ce qu'il devrait être mis dehors ou pas. Entre parenthèses, ne rigolez pas trop non plus, parce que le après qu'il y ait eu cette histoire de CV, il a appris qu'il avait un cancer. Donc bon, c'était pas vraiment sa semaine au pauvre gars. Donc bon, en plus de toute façon, il aurait peut-être été obligé de partir pour s'occuper de sa santé. Mais quoi qu'il en soit, il a été viré par le board. Donc maintenant, c'est réglé. Ouais, non, tu voulais ajouter
Non,
mais
non, puis par rapport à la santé de Yahoo, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de gens qui utilisent Flickr de manière assez assez prononcée. Et en fait, ça fait 3 ans qu'ils ont très peur que Flickr soit vendu ou que d'un seul coup ça ferme. Et il y a une recrudescence d'applications qui servent à rapatrier les photos qu'on peut trouver sur Flickr. Donc en fait, il y a une espèce de paranoïa qui s'installe petit à petit, où on se dit le gros Flickr, qui est quand même la référence en termes de un équivalent de YouTube pour les photos, on se dit on espère que Yahoo s'en sortira au moins grâce à pour Flickr et grâce à Flickr.
Ouais, je suis d'accord. À mon avis, c'est un petit peu léger pour sauver Yahoo, mais bon. Facebook, il y avait l'histoire du App Center. Ils proposent des apps dans l'application Facebook pour appareils mobiles. Ils proposent des apps, enfin, de vous rediriger vers des apps qui utilisent Facebook, qui est une approche intéressante pour étendre encore leur hégémonie. Ils ont initié le partage de fichiers dans les groupes. Vous savez n'importe qui peut créer des groupes sur Facebook. Et là, il y a un système de partage de fichiers. C'est limité à 25 mégas et bien sûr tout le monde sait ce que vous avez partagé, donc je pense que ça va pas tout de suite servir à des trucs super illégaux non plus, mais c'est une fonction vraiment sympa si vous voulez partager des fichiers entre vos groupes d'amis ou des trucs comme ça. Ça peut être super utile, moi j'applaudis, je trouve ça pas mal.
Oui.
Pirate Bay et WikiLeaks ont été victimes d'attaques DDoS, Distributed Denial of Service, ça veut dire que ça met les sites par terre et qu'ils sont plus accessibles, pendant des jours et des jours. Et ça a été assez surprenant et on savait pas très bien qui avait fait ça. Il semblerait que ça soit un ex-Anonymous qui ait fait tout ça et qui soit un petit peu énervé. Bon, bref, on a pensé pendant un moment que c'était Anonymous qui avait provoqué l'attaque, mais Pirate Bay, parce que Pirate Bay avait dit on est contre on ne cautionne pas certaines actions d'Anonymous qui se sont attaquées à des FAI qui avaient été obligés de nous bloquer parce que les tribunaux avaient dit qu'ils devaient nous bloquer. Si vous suivez encore, vous serez, c'est que vous êtes bien informé. Donc certains FAI ont dû bloquer Pirate Bay, parce que la loi avait dit dans certains pays qu'il fallait bloquer Pirate Bay, bloquer l'accès à Pirate Bay, et certains ont, Anonymous a attaqué ces FAI, et Pirate Bay a dit non, c'est pas la réponse à apporter, donc on ne cautionne pas, et donc certains se sont dit quand Pirate Bay a été attaqué, certains se sont dit c'est Anonymous qui répond à cette non caution. En fait, c'était pas le cas. Anonymous a dit non, c'est pas nous, et en fait c'était un ex Anonymous qui était pas content, qui a été énervé contre Anonymous, qui a fait ça parce que bref, c'est un petit peu j'ai 14 ans et je suis énervé. Enfin, je dis j'ai 14 ans, je suis sûr que c'est des gens plus âgés qui font ça, mais c'est, disons que c'est pas très mature, on va dire ça comme ça. Mais dans tous les cas, Pirate Bay et WikiLeaks sont revenus, mais c'était impressionnant, ça a duré plusieurs jours cette histoire. Il semblerait que Pirate Bay n'ait pas été accessible pendant des jours et des jours, et pourtant c'est pas des débutants au niveau de la gestion d'infrastructures, donc on se demande comment une personne seule a réussi à faire ça pendant un moment. On s'est demandé si c'était pas carrément un gouvernement qui faisait quelque chose ou en sous-main ou bon. Mais non, c'était pas le cas. À propos de DDoS, il y a eu un truc marrant sur lequel on va conclure l'émission. C'était, il semblerait que vous connaissez, Ustream forcément, puisque on l'utilise et on vous en parle souvent. Ustream a eux aussi été victimes, ont eux aussi été victimes d'une attaque DDoS qui aurait là été initiée par, on ne sait pas trop qui, mais peut-être le gouvernement russe, dans le but de réduire au silence des journalistes russes qui s'exprimaient sur Ustream. Des journalistes contestataires. Et là où ça devient marrant, c'est que Ustream a réussi à combattre l'attaque des DOS, mais ils n'ont pas fait que ça. Ils se sont dit, c'est un petit peu, on négocie pas avec les terroristes. Ils se sont dit, ok, vous nous avez fait chier, ce type-là qui produit sa propagande, enfin qui met ses messages contestataires, eh ben on va lui offrir une plateforme encore plus visible, et en une journée, le CEO, le président de Ustream, Brad Huntstable, a monté, c'est une petite page simple, mais il a monté une page de Ustream en russe pour le public russe, et qu'il a mis en avant et qui a donné encore plus de visibilité à ces gens-là. Donc, entre parenthèses, le type, il sort de West Point, donc c'est un ancien officier militaire américain. Donc, effectivement, il a une stratégie assez offensive, et on voit bien que enfin, à mon avis, c'est la meilleure stratégie, parce que pour le coup, ils ont provoqué exactement l'effet inverse de ce qu'ils essayaient faire. C'est que là où ils essayaient de réduire au silence ce type qui s'exprimait sur Ustream en faisant tomber le site, eh ben, ils ont créé une version russe du site qu'ils essayaient de faire tomber, qui est simple, donc qui reste toujours accessible. Ustream est remonté et redevenu accessible, donc ils ont tout raté et ça n'a servi à rien, au contraire.
Ah, c'est le fameux effet Barbara Streisand, quoi.
Exactement. Quand on essaye de faire tomber un truc, eh ben, ça attire l'attention dessus et ça ne fait que de la pub plutôt que de faire, d'avoir des effets de silence. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, avec The Pirate Bay quand, je crois que c'est Virgin aux États-Unis, en Angleterre, qui a été contraint de bloquer l'accès. C'est un FAI, hein, en Angleterre, qui a été contraint de bloquer l'accès, à The Pirate Bay, et Pirate Bay a dit, eh ben, depuis qu'on a eu cette histoire, on a eu une augmentation du nombre de connexions monumentales, et donc il semblerait que visiblement ça nous a fait plus de pub que quoi que ce soit d'autre, et il y a des moyens très simples d'accéder à Pirate Bay par des systèmes de cache et de machin, s'ils ouais. sont bloqués par votre FAI, et donc bah voilà, ça n'a fait que de la pub, et c'est là aussi un bel exemple de l'effet Barbara Streisand. Et je terminerai avec ce petit commentaire de Nixo sur la chatroom à propos de cette histoire de Russes, de journalistes russes qui essayent de s'exprimer contre le pouvoir. Quand je disais oui, ça a produit l'effet inverse et il a maintenant beaucoup plus de visibilité, Nixo nous répond oui, c'est vrai, par contre, le journaliste n'a plus que 3 jours à vivre. Effectivement, on peut voir les choses comme ça. Maintenant que Monsieur Poutine est redevenu président, il vaut peut-être mieux ne pas trop le contrarier.
Voilà.
Bon bah ça sera notre conclusion pour cet épisode. Merci Guillaume d'être venu. J'espère que ta dame, ta blonde comme on dit au Canada
va se soigner, oui.
Oui. Je te jette pas la pierre. Ma fiancée a elle aussi une petite crise de toux. C'est peut-être en fait quand nous on se met à faire du podcast, ça provoque une allergie chez nos compagnes.
Voilà, exactement. Donc... c'est probable. Je vais en discuter avec elle.
Bon, en tous les cas, c'était sympathique. Est-ce que tu peux nous dire où on te retrouve sur le net quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech ?
Alors, on me retrouve sur Twitter avec le compte Statosphère. On me retrouve surtout sur le site statosphère.fr si vous aimez les statistiques, le référencement, le web analytique, tout ce qui a un rapport au e-business, e-marketing, bah, vous pouvez visiter statosphère.fr.
Super, merci beaucoup. Pour ma part, vous pouvez me retrouver, c'est très simple, c'est Note Patrick à peu près partout, peut-être pas complètement partout, mais à peu près, sinon Patrick Béja, ça devrait suffire. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur iTunes, comme l'a fait Quartz, qui nous a laissé un commentaire pour nous remercier. Il dit merci, avec 5 étoiles, des avis très intéressants, des infos fraîches sur l'actualité techno, enfin tout simplement un plaisir toutes les 2 semaines à écouter, merci à lui. 53681 nous dit aussi super avec 5 étoiles. Je lis les 2 premiers, hein, je sélectionne même pas. Patrick Béja m'a enfin permis de rendre mon trajet domicile-travail intéressant. 2 fois par mois, c'est déjà ça. C'était peut-être un truc qu'on a lu la dernière fois. Non. Je me surprends même à ralentir le pas pour avoir le temps de finir d'écouter l'un des sujets. Bravo à l'équipe et continue comme ça et plus souvent. Merci à toi, 53681. Et si, comme vous voulez laisser des commentaires et des notes sur iTunes, ça nous fait toujours très plaisir, et en plus ça nous aide puisque d'autres personnes pourront découvrir l'émission par ce biais, et c'est forcément un bon coup de pouce que vous pouvez nous filer. Je conclus en disant que si vous appréciez les podcasts, vous en trouverez forcément d'autres qui vous plairont sur nowatch.net. On vous en parle régulièrement. Vous pouvez aller voir les commentaires de l'émission, les liens de l'émission. Donc, vous pouvez y aller de toute façon. Mais tant que vous y êtes, vous pouvez aussi découvrir d'autres émissions qui vous plairont peut-être. Il y en a plein sur plein de sujets différents. Si vous vous dites, par exemple, que vous aimez le cinéma, que vous aimez les séries télé et que quand vous êtes dans le métro ou je sais pas moi dans la baignoire ou au boulot, que vous êtes en train de faire une tâche un petit peu répétitive et que vous aimeriez bien avoir un truc qui vous fait marrer et qui vous intéresse dans les oreilles, et ben vous pouvez aller écouter un épisode de Season 1 ou de Split Screen ou de Saturn par exemple, hein. Je donne quelques exemples, mais il y en a bien d'autres sur plein de sujets. Donc nowatch.net réunit plein d'émissions sympathiques et on vous invite à aller y jeter un coup d'œil. C'est terminé pour cet épisode du Rendez-vous Tech. On vous retrouvera dans 2 semaines, ça sera le 4 juin, si tout va bien. On conclut en faisant une grosse bise à la chatroom, en la remerciant d'être toujours présente et animée. Et on vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci à tous et à très vite.
Ciao, ciao à tous.